les auditrices.
Bonjour les auditeurs.
Bienvenue sur le 93.7 de Radio Valois Mulsien.
Nous sommes le CE2 et le CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Nous espérons que vous allez bien.
C'est l'heure de notre émission.
Les stars de la radio.
Le lundi 5 février, l'archer Guillaume Toucoulet, qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris,
est venu dans notre école pour nous parler des valeurs du sport et nous montrer son arc.
C'était trop bien. Avec la maîtresse et le maître, on a préparé des questions à lui poser.
Alors, si vous voulez écouter notre interview, restez avec nous. Elle commence dans quelques secondes.
Les CE2 et les CM1 de l'école des remparts vous souhaitent une bonne émission.
Bonne émission !
RVM, les stars de la radio, 93.7.
Ça va bien ?
Oui !
Et vous ? Très bien, ouais, ça va. Ben, merci de m'accueillir dans votre école.
C'est gratuit ?
Ah, cool. Non, j'avais préparé le chèque dans le sac au cas où. Bon, ça va ? Vous êtes en forme ? Personne n'est malade ? Non ? Est-ce que vous faites du sport ?
Oui !
Super. Vous faites quoi comme sport ?
Des
mousses. Allez-y, allez-y.
Des mousses.
Je vais me présenter, donc vous connaissez déjà mon nom et mon prénom.
Guillaume.
Voilà, Guillaume Toucoulet. Donc je suis natif du Pays Basque. Donc je suis né à Bayonne. Le Pays Basque, c'est dans le sud-ouest de la France. J'habite juste à côté de l'océan et de l'Espagne, pour vous situer. Donc moi, je suis un enfant qui adore le sport. Depuis l'âge de 6 ans, je faisais de la pelote basque, de l'aviron. Et maintenant, je fais donc du tir à l'arc. Voilà. Du para-tir à l'arc, exactement. Et avant de faire du para-tir à l'arc, je faisais du para-aviron. J'étais aussi en équipe de France jusqu'en 2016. Et après, j'ai découvert le tir à l'arc et maintenant, je fais du tir à l'arc. Je crois que vous avez préparé des questions.
Oui.
C'est bien, vous êtes curieux. Je vous propose de commencer.
Bonjour Guillaume, on est très content de vous recevoir dans notre école. Nos deux classes ont travaillé sur les techniques de l'interview.
On a préparé 24 questions.
Êtes-vous prêt pour cette longue interview ?
Non. 24 questions, non, mais si.
Première question, Guillaume. Où êtes-vous né ?
Alors, je suis né à Bayonne. Bayonne, c'est dans le Pays Basque, c'est dans le sud-ouest de la France. Voilà, je suis né le 29 octobre 84 et je suis principalement resté tout le temps sur Bayonne.
Lana, dès vos 6 ans, vous avez pratiqué la pelote basque. Pouvez-vous présenter cette discipline ?
Alors, la pelote basque, c'est très simple. Ça se joue ou tout seul ou en équipe, équipe de 2 ou de 3. Et donc, on a une pelote, donc c'est une balle. Comme une balle de tennis, mais beaucoup plus dure. On appelle ça une pelote, mais non pas une balle. Elle est très très dure. Et donc la main nue, ça consiste à venir taper avec la main dans la pelote sur un mur. Ça peut être, on appelle ça un fronton. Donc on tape sur le mur, la pelote revient et c'est à l'autre joueur à retaper dans la pelote contre le mur et ainsi de suite. Et on a le droit à un seul rebond. Le premier qui fait une faute, c'est l'autre qui marque un point, par exemple. Et c'est le premier qui arrive... Alors, ça dépend de la catégorie et de l'âge, mais c'est le premier qui arrive à 30 ou 40 qui gagne la partie.
Léo, à 14 ans, après vous être blessé à l'épaule gauche, vous avez choisi de faire de l'aviron.
Hugo, pouvez-vous présenter cette discipline et nous expliquer pourquoi l'avez-vous choisi ?
Alors c'est vrai qu'à 14 ans, je me suis blessé. Alors c'est pas l'épaule gauche, c'est l'épaule droite. Je me suis arraché les ligaments sternoclaviculaires, donc c'est au niveau de la clavicule. Quand j'avais 14 ans, j'étais surclassé, je jouais avec les plus grands et le poids de la pelote change. Alors c'était pas à la main nue, c'était à la chistera, à Yoko. Et sur une volée, ben, en fait, je me suis arraché les ligaments. Donc on m'a dit, les médecins m'ont dit à cette époque-là, il faudra que tu mettes la pelote en pause. Tu as grandi beaucoup trop vite et donc du coup, il faudrait que tu trouves une discipline sportive qui te permette de te renforcer musculairement. Et donc, on m'avait conseillé la natation ou l'aviron. La natation, je connaissais, l'aviron, pas du tout. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas essayer l'aviron. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri dans ce sport-là. Et c'est un sport qui m'a de suite beaucoup, beaucoup plu, parce que c'est un sport d'équipe. C'est un sport très dur physiquement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement pour être à un bon niveau. Et ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement, de volonté, de discipline pour pouvoir bien ramer à haut niveau. Voilà. Et donc c'est un sport que j'ai pratiqué jusqu'en 2016.
Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona.
Maya, vous avez eu en 2010 un accident de moto.
Timae, est-ce que si cela vous ne dérange pas, vous pouvez en parler ?
Ah oui, ça ne me dérange pas du tout. Effectivement, en juillet 2010 exactement, on a eu un accident de moto. Alors je dis « on » parce que j'étais pas tout seul sur la moto, il y avait ma petite sœur. Ma petite sœur qui a 10 ans de moins que moi. Et donc je l'amenais voir Shrek 3, c'était, je crois. Et donc on partait au cinéma tous les deux, c'était en plein été. Et puis beaucoup de circulation. Et puis une voiture ne m'a pas vu, pourtant je roulais pas vite. Et elle m'a coupé la route et j'ai pas pu l'éviter et je suis rentré dans la voiture. Ma sœur est passée par-dessus la voiture, donc elle a roulé sur la route. Elle s'est faite une fracture au pouce. Et moi, j'ai voulu faire la même chose qu'elle, passer par-dessus la voiture, sauf que mon bras est resté accroché à la moto. Et en fait, j'ai le toit de la voiture qui m'a fait une fracture ouverte du bras. Et du coup, je suis resté de l'autre côté de la voiture avec le bras cassé. Et il n'y avait pas que le bras de cassé, il y avait également les nerfs qui ont été touchés. Aujourd'hui, j'ai un bras que vous voyez là, mais il ne bouge pas. Vous voyez, il est beaucoup plus fin que l'autre. Il ne bouge pas, je n'ai pas de sensation au niveau du bras. Donc quand on me touche, je ne suis pas au courant. Je sens beaucoup plus haut, en fait, qu'il y a quelque chose qui bouge, mais je ne sens pas au niveau du bras, je ne sens rien. Et par contre, malheureusement, j'ai mon bras qui me fait mal et qui me brûle tout le temps. Donc je ne sens rien, et pour autant, j'ai des douleurs au niveau du bras qui sont continuelles.
Je m'appelle Caïs. C'était pour dire, est-ce que vous pouvez bouger encore votre bras un peu ?
Non, je ne peux pas bouger mon bras volontairement. Alors, des fois, vu que c'est une atteinte nerveuse, des fois j'ai le doigt qui vient bouger un tout petit peu. Mais c'est les nerfs en fait qui viennent bouger. Enfin, je ne sais pas, ça bouge en tout cas. Mais il n'y a rien de volontaire. Tu vois, c'est pas moi qui décide de fermer ma main, par exemple, ou de bouger mon doigt comme ça. Mon doigt, il bouge tout seul. Voilà. Mais ça arrive très, très peu souvent.
Amen. Comment vit-on avec un membre paralysé ?
Alors, c'est beaucoup d'adaptation. C'est pas facile au début. C'est quelque chose de compliqué à accepter, d'ailleurs, déjà. Et puis, une fois qu'on a passé ça, eh bien, c'est que de l'adaptation. Le corps, il est vraiment très bien fichu. On s'adapte beaucoup, très vite, facilement. Par exemple, pour ouvrir quelque chose, oui, on n'a pas assez de mains pour l'ouvrir, mais on va venir s'aider avec les jambes, par exemple. Ça nécessite de se poser un petit peu, de réfléchir. Pour certaines choses un peu plus compliquées, comme par exemple faire des lacets. Pour faire ces lacets, j'ai dû me poser plus longuement et essayer d'aller trouver une solution pour lacer ma chaussure. Alors au début, j'avais pas beaucoup de dextérité au niveau des doigts. Enfin, j'en avais, mais comme vous. Et après, j'ai développé un petit peu plus la dextérité au niveau des doigts. Donc je pouvais faire les choses un peu plus finement. Mais avant d'en arriver là, mes lacets... Je faisais des lacets complètement différemment de ce que vous faites, vous, pour essayer de tenir juste ma chaussure. Et après, je me suis penché pour faire un lacet plus conventionnel.
Warren, pourquoi vous avez arrêté l'aviron en 2016 ?
Alors, pourquoi j'ai arrêté l'aviron ? Parce qu'en fait, en 2015, donc un an avant les Jeux de Rio, avec l'équipe de France, on avait sélectionné le bateau pour participer aux Jeux paralympiques. Et donc en 2016, pour pouvoir faire les Jeux, il fallait se resélectionner en équipe de France. Donc il y a un chemin de sélection qui avait été établi. Donc chemin de sélection que je décide de suivre pour participer au jeu. Et ce chemin de sélection n'a pas été respecté. Il a été arrêté brutalement. Et je n'étais pas dans le collectif qui allait faire les jeux. Donc je ne comprenais pas pourquoi ils n'allaient pas jusqu'au bout du chemin de sélection pour décider. Et en fait, après, quand j'ai su la raison, j'ai trouvé ça un peu injuste. Et donc j'ai préféré arrêter complètement le sport de haut niveau. Je voulais vraiment définitivement arrêter, ne plus rentrer en équipe de France. Et donc, j'ai arrêté ce sport-là.
Première pause musicale. On va écouter le chanteur Odelaf avec la chanson...
Cathy Freeman.
Ce titre nous a touchés car on a bien aimé l'histoire de cet athlète.
T'es né dans un pays grand comme un continent, écrasé de soleil d'anglais envahissant, qui avait décrété à peine en arrivant que les aborigènes, mais en y regardant, ils gênent pas vraiment. Tu t'es mise à courir comme les autres enfants, mais y'avait rien à faire, tu gagnais tout le temps. Et de fil en aiguille, tout en grandissant, t'as vu passer les jours en te chronométrant. Paradoxe évident.
Cathy Freeman, Cathy Freeman,
un drôle de nom pour libérer les femmes.
Cathy Freeman.
Moi quand j'étais minot, le troisième millénaire, je le voyais plutôt dans un vaisseau lunaire. Je pensais pas qu'une femme déguisée tout en vert entrerait dans l'histoire en gagnant de travers une course légendaire.
Cathy Freeman, Cathy Freeman,
tu as de l'or sur le cœur et dans l'âme.
Cathy Freeman.
Comme elle avait craqué, y avait plus Marie-Jo. T'avais plus qu'à courir dans ta combi fluo. Et t'as passé la ligne dessous les cinq anneaux et t'as montré au monde ce qu'il y a de plus beau. Tu portais deux drapeaux.
Cathy Freeman, Cathy Freeman,
ce sont deux peuples réunis qui t'acclament.
Cathy Freeman.
Écoutez actuellement l'interview de l'archer Guillaume Toucoulé par les élèves de la classe des CE2 et des CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Ryan, à quel âge et comment avez-vous découvert votre passion pour le tir à l'arc ?
Ben justement, après avoir décidé d'arrêter le sport de haut niveau, je suis allé dans un forum des associations. Donc c'est une journée qui est consacrée donc aux associations du coin, dans une ville là où j'habite. Donc j'y suis allé. Et je me suis arrêté devant le stand de tir à l'arc. Et je regardais juste les gens essayer la pratique. Et quelqu'un m'a dit, mais viens essayer. Alors moi je lui ai dit, non, je peux pas tirer à l'arc. Et il me dit, si, tout le monde peut tirer à l'arc. Je dis, oui, mais moi j'ai un bras qui fonctionne pas. Du coup, ça va être un peu compliqué. Et cette personne-là m'a dit, effectivement, là tu pourras peut-être pas tirer de suite. Par contre, passe dans 15 jours au club et on va trouver une façon de te faire tirer à l'arc. Alors curieux, j'y suis allé et puis on m'a dit, on a vu quelqu'un qui tirait à la bouche. Donc est-ce que ça te tente de tirer à la bouche ? J'ai trouvé ça complètement fou et j'ai dit, on y va. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, que j'ai découvert le tir à l'arc. Et c'est une discipline qui m'a beaucoup plu. Alors c'est pas une discipline sur laquelle je me serais porté de suite, parce que j'aime les sports vraiment à forte dépense énergétique, comme l'aviron par exemple, la pelote ou le badminton, ou vraiment des sports où il faut vraiment courir. Le tir à l'arc, on est vraiment très statique, c'est un autre type de sport. Mais pour autant, j'ai aimé tirer à l'arc, j'ai aimé voir ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir bien tirer, parce que toucher une cible c'est facile, mais de le faire de manière précise, régulière et toujours au même endroit, ça c'est compliqué. Et pour pouvoir faire ça, il faut beaucoup d'entraînement, un peu comme l'aviron, quoi. Beaucoup d'entraînement, de détermination, voilà, bien connaître la pratique, et pour ça, il faut s'entraîner. Il faut vraiment être calme, gérer ses émotions de manière posée. C'est quelque chose que j'ai appris à faire grâce au tir à l'arc.
La
Lenny, comment faites-vous pour bien apprendre à viser avec votre bouche?
Alors ça se fait un petit peu. Alors je vise avec un œilleton et après, contrairement à un archer traditionnel qui lui va essayer de tout aligner pour vraiment arriver au centre, moi je fais un peu ça. Je fais un peu au feeling. J'ai pas de repère, j'ai pas de point d'appui, j'ai pas de point de contact. Donc je fais tout au feeling, à la sensation en fait. Voilà, donc je pose mon œilleton sur la cible. Et après, c'est que de l'imagerie mentale et c'est que du prolongement. Et voilà, je me crée en fait ma ligne de tir et c'est que virtuel.
Enola, comment faites-vous pour ne pas vous blesser ou vous faire mal aux dents?
Eh bien, je ne sais pas. Je me pose encore la question. Non, je ne sais pas trop. Je ne pense pas à ça. J'ai une hygiène dentaire qui est la même que la vôtre. Je me brosse 3 fois les dents par jour, j'espère. Ou 2 fois au moins. Je prends bien soin quand même de mon hygiène dentaire. Je vais voir mon dentiste régulièrement et il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas des protèges qui ont été créés pour les dents?
Alors si, il y a des protèges dents qui existent. Alors pas spécifiquement pour tirer à l'arc, parce qu'on est vraiment très 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 peu à tirer à la bouche à haut niveau. J'ai essayé de tirer à l'arc avec un protège dents de rugbyman par exemple. Mais par contre, on perd énormément en précision. Parce que c'est un point qui est très important. Il suffit de tourner un tout petit peu la tête du côté gauche ou du côté droit quand on vise. Et en fait, on peut louper carrément la cible. Donc c'est un point de détail qui est hyper important. Et là où je perds le moins d'informations, c'est en ne mettant rien sur les dents pour être le plus précis possible.
RVM, les stars de la radio, 93.7.
Nathan, pouvez-vous nous parler de ton entraîneur et de vos exercices d'entraînement?
Alors mon entraîneur s'appelle Vincent Ibois. C'est un grand monsieur qui est aussi grand que moi, qui est plus vieux que moi. Il a 61, je crois. Bon, bref, c'est un grand monsieur qui a la soixantaine, on va dire. Ou 57, peut-être. Et en fait, c'est un peu grâce à ce monsieur que j'ai rejoint les rangs de l'équipe de France. Parce qu'en fait, très vite après avoir commencé le tir à l'arc, j'ai fait les championnats de France. Et très très vite, je suis devenu champion de France. Et donc ce monsieur m'a dit, mais d'où tu sors? Je ne t'avais jamais vu avant et tu arrives et tu es champion de France. Quoi. Est-ce que tu veux pas intégrer l'équipe de France? Et moi je lui ai dit non, moi, je ne veux pas du tout intégrer l'équipe de France, je veux qu'on me fiche la paix. Je fais juste ça pour moi, pour me faire plaisir. Quoi. Et il me dit, ah, c'est quand même dommage. Donc on a beaucoup échangé, tous les deux. Et puis il a réussi à me faire craquer, mais au bout de 2 ans. Et je lui ai dit, écoute, si j'ai encore le niveau pour entrer en équipe de France, je veux bien essayer. Donc c'est grâce à ce monsieur que j'ai intégré l'équipe de France en 2019. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai pu vraiment peaufiner ma technique de tir à la bouche, qui est d'ailleurs notre technique. Et on apprend encore, autant lui que moi. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitié, d'échanges entre nous deux. Parce que moi je lui dis ce que je ressens, lui il me dit ce qu'il voit. Et donc on essaye d'adapter les choses et de corriger en fonction de nos ressentis. Et donc c'est un monsieur que j'ai tous les jours au téléphone, quasiment tous les jours. Et voilà, pour moi c'est plus qu'un entraîneur.
Allez les gars, allez Guillaume. Ouais, 10, bien joué Guillaume, super.
Maïwan, où est situé votre club de tir à l'arc? Pouvez-vous en parler?
Alors, mon club de tir à l'arc, il est situé à Compiègne. Donc c'est il y a le président qui est avec nous, le président du club de Compiègne. C'est un club qui m'a contacté il y a 2 ans de ça pour savoir si je voulais pas rejoindre leur rang pour me faire partir de leur équipe en première division pour pouvoir tirer avec les valides. Et donc moi je suis un Basque. Les Basques qui sortent pas très souvent de chez eux de leur pays. Et du coup ma première réaction ça a été de dire non. Non, c'est bon, je suis bien là où je suis, j'ai pas envie de bouger. Je veux continuer à être dans un club au Pays Basque et voilà. En fait, c'est les personnes, c'est les gens qui étaient dans ce club qui m'ont aussi donné envie de les rejoindre. Donc c'est un monsieur en particulier à qui j'ai fait confiance. Et je lui dis, si tu me conseilles d'aller là-bas, je vais accepter parce que j'ai confiance en toi et je sais que forcément ça va être des gens bien. Et en fait, je regrette absolument pas. Parce que j'ai l'impression de les connaître depuis des années, alors que ça fait qu'un an que je suis avec eux. Et ils m'ont hyper bien accueilli. J'ai évolué avec eux de manière sereine, posée. Et du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais les sports à forte dépense énergétique. Je fais du sport à haut niveau dans le tir à l'arc. Avant d'être à Compiègne, quand j'avais envie de me défouler, je posais l'arc et j'allais prendre mon vélo. Sauf que quand on fait un sport à haut niveau, il faut pratiquer ce sport-là pour être le plus performant possible. Et c'était un petit peu ce qui me manquait. Du coup, appartenir à une équipe, pour moi, ça donnait beaucoup de sens. Parce que même quand je n'avais pas envie de prendre l'arc, je prenais l'arc quand même pour les copains de l'équipe. Je ne tirais pas pour moi, j'allais tirer pour eux. Et c'est quelque chose qui parle beaucoup pour moi.
Seconde pause musicale. On va écouter le chanteur Benabar avec le titre « On lâche pas l'affaire ».
Mettre un genou à terre, surtout jamais les deux. Faire comme hier, se relever comme on peut. Tomber de cheval, de vélo, sur un os. Remonter tant bien que mal, sans cacher ses bosses. C'est qui le boss? Oh non. Lâche pas l'affaire, même quand ça se coud, même quand ça remue. Pas nous la faire, nous, jamais battu. On se tient peut-être mal, mais on tient bon. On ferait une chorale si on nous coupait le son. Oh passer par-dessus bord, ceux qui nous ont poussés, nous verrons nager au port pour à nouveau embarquer. Il paraît que les plus forts refusent certains combats. Comme on n'est pas les plus forts, ça nous concerne pas. Certainement pas. Oh non. On lâche pas l'affaire, même quand ça se coud, même quand ça mûre, on va pas nous la faire, nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on coupait le son. Oh non, on s'accroche, on s'accroche. Glisser sur du verglas, faire rire les gens autour, trouvez pas ça marrant. Et puis rire à son tour. Je voudrais dire aux gosses que la vie, je crois, c'est faire du patin à glace pour la première fois. Et puis voilà. Ah ouais. On lâche pas l'affaire, même quand ça se coud, même quand ça remue. On va pas nous la faire, nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on nous coupait le son. Alors, on lâche pas l'affaire, même quand ça se coud, même quand ça mue, on va pas nous la faire, nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on nous coupait le son. Oh non, oh non, on s'accroche.
RVM, les stars de la radio, 93.7. Est-ce que c'est difficile de tenir l'équilibre
pendant le tir à l'arc? Ou tout le temps? Pendant le tir à l'arc? Oui, c'est un peu difficile. Ouais. Quand il n'y a pas de vent, ça va. Ça passe plutôt bien. Mais dès qu'il y a du vent, vu que je ne peux pas tirer la corde avec mon autre main, l'équilibre il est un peu précaire, quoi. Donc dès qu'il y a un peu de vent, je suis très très vite déstabilisé. Donc c'est mon gros point faible par rapport à un archer. Qui a ses deux mains, c'est que dès qu'il y a du vent ou dès que je suis perturbé par le soleil, par exemple, le soleil aussi va me faire bouger la tête, je ne m'en aperçois pas parce que je n'ai pas de point de contact derrière au niveau de ma tête. Et en fait, je m'en aperçois pas. Donc l'équilibre est assez dur à trouver. Par contre, dès que je l'ai trouvé, ça marche bien.
Léna, quels sont vos points forts et vos points faibles?
Alors, mon point fort, c'est le mental. Le mental et ma capacité physique, ça c'est mes gros points forts. Mon point faible, ça va être justement dans le tir à l'arc, quand il y a du vent, je peux me faire déstabiliser très très vite et perdre ma ligne de tir. Donc ça c'est vraiment mon point faible, mais à force de travailler dans le vent et de faire évoluer un petit peu mon tir pour justement être plus rapide dans le vent, on arrive à gommer un petit peu ces problèmes-là, mais c'est quand même quelque chose que je travaille encore.
Emma, combien de médailles avez-vous eues dans votre carrière ?
Alors, je ne les compte pas parce que pour moi, une médaille, ça fait plaisir, mais ce n'est pas un objectif pour moi. Donc, je dirais une trentaine, entre l'aviron et le tir à l'arc. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas une finalité d'avoir une médaille. Pour moi, je fais du sport parce que je me dépasse constamment. Constamment, j'essaye de progresser, j'essaye d'aller toujours plus haut, plus haut, plus haut. Et puis, c'est partagé autour de ça aussi. C'est pour ça que je suis là devant vous. C'est pour vous dire à quel point c'est important de faire du sport, pour vous dire à quel point c'est pas parce qu'on a une petite difficulté ou qu'on a quelque chose qui va de travers qu'il faut baisser les bras. Et le sport aide beaucoup à ça. Voilà, il aide à prendre conscience et confiance en soi. Et puis, ça forge vraiment, vraiment le caractère.
RVM, les stars de la radio 93.7.
Nawel, quel est l'écart de niveau entre les athlètes paralympiques et les valides ?
Quel écart de niveau ? Ça dépend des archers. Là, par exemple, il y a 2 ans, je me suis sélectionné en équipe de France valide. Et sur une des épreuves, j'ai fini devant tous les archers français valides. Donc ça dépend. Alors oui, effectivement, il y a une différence de niveau qui est due à notre handicap. Tirer avec un handicap, forcément, c'est moins facile que de tirer sans handicap, comme son nom l'indique. Mais après, ça dépend de la détermination, de la volonté de la personne qui est handicapée. Je ne peux pas répondre clairement à cette question parce que ça dépend de la personne, ça dépend des deux côtés. Mais le niveau moyen, je ne sais pas, sur 680 points, il y a peut-être 40 ou 50 points d'écart.
Léonie, que vous ressentez quand tu perds ?
Ça dépend comment je perds. Si je perds alors que j'ai super bien tiré et que l'autre était plus fort que moi, déjà je vais être content. Content du match qu'on a donné. Alors forcément il y a une petite pointe de déception parce que la victoire n'est pas au bout. Mais par contre la manière d'avoir abordé le match était vraiment top. Donc je le prends plutôt bien. Il a été plus fort que moi, c'est le jeu, c'est le sport. Par contre si je perds et que j'ai mal tiré, forcément je suis très déçu de moi. Mais il me tarde de repartir très très vite à l'entraînement pour essayer de gommer ça et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Déjà, j'ai jamais baissé les bras. À aucun moment, je me suis dit, je vais tout arrêter parce que j'ai perdu un match. J'ai toujours essayé d'aller de l'avant, de comprendre pourquoi j'avais perdu. Ça, c'est toujours quelque chose qui est important pour moi, de comprendre pourquoi, pour pouvoir après rectifier le tir.
Nolan, est-ce que vous stressez lorsque vous êtes en compétition ?
Non. Alors, il y a du stress, c'est sûr. Je pense que tout le monde stresse pendant une compétition à plus ou moins grande échelle. Mais moi, ça va en fait. Je ne stresse pas trop. Il y a une petite appréhension, c'est sûr. Mais je ne suis pas rongé par le stress. Après, j'ai une technique à moi pour l'évacuer à petite dose. Et j'arrive à transformer ce stress en bon stress. Il n'y a pas de bon ou de mauvais stress. Je pense que le stress, il est commun à tout le monde. C'est ce que nous, on fait de ce stress-là qui va le transformer en bon stress, en stress positif. Ou un stress négatif. Si on est de nature anxieuse et qu'on est stressé, on va plutôt avoir tendance à avoir du mauvais stress. Si on est toujours assez positif, joyeux, et qu'on a du stress en nous, on va plutôt avoir tendance à le transformer en bon stress. Ça dépend comment on l'aborde, ce stress-là. En compétition, j'estime qu'on est seul à faire une prestation de tir, donc ça ne tient qu'à nous de bien tirer. Après, il adviendra ce qu'il adviendra.
Noé, que faites-vous pour vous concentrer avant de tirer à l'arc ?
J'écoute du métal. J'ai vu ton t-shirt. j'écoute du métal. J'aime beaucoup la musique. Et donc ça m'aide à me concentrer.
Que vous prenez tout le temps votre petite flèche de votre fils Patxi. J'ai du mal à dire le Patxi.
Alors ça, effectivement, c'est la flèche de mon petit garçon que j'ai tout le temps avec moi sur mon carquois en compétition ou même à l'entraînement. Alors cette flèche-là, pour vous expliquer la petite histoire, c'est donc mon fils, il a 4 ans et demi. Et donc il y a un an et demi de ça, ou peut-être 2 ans, je lui ai offert donc un arc en bois avec ces petites flèches-là. Et puis je lui ai appris à tirer à l'arc. On tirait tous les deux à la maison. Et puis, à la fin de l'entraînement, il a ramassé ses 4 petites flèches comme ça, et il me les a mises dans le carquois. en me disant « Tiens papa, tu pourras faire ta compétition avec mes flèches. » Vous allez voir la différence entre les flèches de compétition et celle-là. Elle est juste folle. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon que du coup, j'ai gardé une de ces flèches que j'ai tout le temps avec moi en compétition ou à l'entraînement. Donc oui, je l'ai tout le temps.
Et voilà la flamme qui brille désormais dans ce stade et dans le ciel de la capitale du Japon pour l'ouverture des Jeux, ces 16e Jeux paralympiques.
Qu'est-ce que se passe-t-il avec votre arc aux Jeux de Tokyo en 2021?
Alors, aux Jeux de Tokyo, il a fait très très chaud. Vraiment très 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 chaud. À cette époque-là, je travaillais à temps plein dans une entreprise. Et donc, je connaissais pas beaucoup le tir à l'arc. C'était une pratique que je faisais depuis très très peu de temps. Donc tout le réglage matériel, tout ça, il n'était pas très acquis. Donc du coup, je suis arrivé à Tokyo avec un matériel que je connaissais pas au top, avec des températures que je n'avais pas l'habitude de tirer avec autant de chaleur. Et ma languette et ma corde a cassé pendant l'entraînement. Et donc du coup, il a fallu réparer l'arc. Quand on l'a réparé, les flèches qui ont suivi, le vol n'était pas top, c'était pas génial, quoi. La réparation était faite, mais voilà, c'était pas aussi bien que ce qu'il y avait avant. Et en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça fait suer, quoi. Je suis là, j'ai cassé mon matériel parce que je le connaissais pas assez, parce que si, parce que ça. Et donc, le lendemain, je vais pour faire mes matchs et effectivement, je suis pas au top mentalement pour aborder la compétition et je tire bien, hein, mais c'est pas magique. L'autre a été plus fort que moi et il m'a sorti parce que j'avais pas assez confiance en mon matériel. Donc du coup, suite à ça, j'ai appris un petit peu de mes erreurs, de ce qui m'a manqué. Et je me suis dit, c'est bête de perdre une compétition parce que tu connais pas assez ton matériel. T'es sur la plus belle compétition sportive au monde et pour autant, tu t'es fait sortir. Donc du coup, j'ai mis des choses en place l'année qui a suivi pour le connaître un peu mieux et puis refaire les mêmes erreurs.
C'est vous qui l'avez cassé ou c'est la chaleur qui l'a fait casser?
Alors la chaleur l'a fragilisé et moi quand j'ai tiré, ça a cassé.
On s'écoute un petit morceau de musique, les auditeurs.
On vous propose Soprano avec le morceau Le Coach.
Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper.
Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squats, squats. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach.
Faut taper le cardio.
Allez, 10 secondes de récup et on repart.
Vous écoutez actuellement l'interview de l'archer Guillaume Toucoulet par les élèves de la classe des CE2 et des CM1 de l'école des remparts de Verberie. Chana, quel sportif vous inspire ?
Quel sportif m'a inspiré ? Il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier, c'est Julien Després. Julien Després, c'était un rameur valide qui était membre de l'équipe de France. Alors, les rameurs, ils sont tous grands. Ils font 1m90, 2m. Et Julien, lui, est beaucoup plus petit que ça. Et du coup, c'était un garçon hyper gentil, déterminé aussi, qui a dû travailler énormément pour réussir dans l'aviron. Et c'est quelqu'un qui a jamais rien lâché. Et il a eu une médaille aux Jeux Olympiques de Pékin. Il a fait 3e avec l'équipe de France. Et pour moi, c'est un modèle parce que il n'avait pas les facultés à la base pour pouvoir rentrer en équipe de France d'aviron. Et par sa détermination, son courage et sa motivation, il a su un peu casser les codes et c'est devenu un des piliers de l'équipe de France d'aviron. Et donc pour moi, c'est aussi un modèle de détermination et de force mentale.
Margot, avez-vous un autre métier que celui d'archer ?
Oui, tirer à l'arc, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est je suis chargé d'études dans le réseau électrique. Donc je travaille pour Enedis et mon travail c'est améliorer, renforcer, développer le réseau électrique pour que vous soyez tous bien alimentés en énergie et en électricité.
Nina, les Jeux paralympiques vous débutez bientôt.
Comment vous sentez-vous quelques mois avant l'épreuve ?
Je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien, plutôt content. Parce que si on me dit que les Jeux c'est demain, je me sens prêt. Et là, il y a quand même encore quelques mois avant l'échéance. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour me préparer. Je me sens bien. Il me tarde que ça commence, mais en même temps, j'ai envie de prendre le temps pour encore peaufiner l'entraînement. Donc je me sens plutôt bien.
RVM, les stars de la radio 93.7.
Ethan, qu'est-ce que cela fait d'être favori ?
Alors ça, j'y pense pas. Il n'y a pas de favori. Enfin, il y a des gens qui peuvent se détacher un petit peu, mais le tir à l'arc, tout le monde peut être champion olympique. Tout le monde peut être champion paralympique. Pour moi, il n'y a pas de favori. Il n'y a que des gens qui vont donner le meilleur pour essayer de gagner. Et ça va aller à celui qui va être le plus déterminé, le plus courageux et celui qui aura travaillé le plus en amont. Donc je préfère pas me dire que je suis favori. Je préfère me dire que je mettrai tout ce qu'il faut pour faire le meilleur dans cette compétition.
Où vous allez résider pendant les JO ?
En fait, il y a un village, sur chaque Olympiade, il y a un village qui est créé pendant les Jeux. C'est le village olympique ou paralympique, où résident tous les sportifs. Donc il y a quasiment un bâtiment par nation. Et donc on est tous là. Donc sur le bâtiment France, mais je vais être avec des archers internationaux français sur d'autres disciplines aussi. Donc il pourrait y avoir des coureurs, il pourrait y avoir des pongistes, des footballeurs. Voilà. Il y aura tout un tas de sports qui seront réunis dans le même bâtiment et on va évoluer ensemble pendant toute la compétition.
Quand on a un handicap au bras, est-ce qu'il existe d'autres possibilités que tirer que la bouche ?
Ouais, bien sûr, c'est une très bonne question. Bien sûr, il existe une autre façon de tirer. Alors, dans ma catégorie, dans l'arc classique que je vais vous montrer, non, on ne peut pas. Parce que l'arc classique, il ne faut pas qu'il y ait de système automatisé dans la décoche. L'autre système que l'on peut utiliser, c'est donc on met un plastron donc sur le torse avec un système de décoche automatique. C'est-à-dire qu'on va venir coincer la corde dans un petit crochet qui sera ici, d'accord ? On va venir tendre l'arc, on appelle ça bander l'arc. Et après, avec un système de décoche automatique, donc ça peut être ou avec le menton qu'on va venir bouger, ou avec une petite pince à linge qu'on aura dans la bouche, on va venir déclencher, comme ça. Donc ça va, le mécanisme va s'ouvrir et la corde va partir toute seule. Voilà, ça c'est un autre système. Mais pour pouvoir utiliser ce système-là, il faut tirer avec un autre arc, on appelle ça un arc à poulie. Voilà. Et moi, j'ai un arc classique.
Juste une question. Est-ce que c'est dur pour tirer ?
Alors justement, l'aviron a permis d'avoir une bonne capacité musculaire. Donc j'ai jamais trouvé ça difficile de tirer avec la bouche. Mais certains archers valides ont essayé de tirer avec la bouche et ils m'ont dit que c'était vraiment très difficile. Donc moi j'ai la chance de pas avoir peiné pour tirer, mais je sais que par expérience c'est assez difficile.
RVM, les stars de la radio 93.7.
Pouvez-vous tirer avec votre pied ?
Alors c'est très drôle parce que quand on m'a proposé de tirer à l'arc avec la bouche, moi j'ai eu une réflexion qui a été, mais bien sûr, mais pourquoi pas avec les pieds aussi ? Parce que pour moi c'était quasiment pas possible. Et en fait, quand j'ai fait les compétitions internationales en para, je suis tombé sur un monsieur qui tirait avec ses pieds. Il tirait à l'arc avec ses pieds. Donc il avait ce système de décoche automatique, parce que lui, c'est quelqu'un qui est né sans les deux bras. Et du coup, il avait donc le système de décoche automatique et il prenait l'arc avec ses pieds. Alors après, il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde de tirer avec ses pieds. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est si on n'est pas né sans bras, le corps, il ne se façonne pas. C'est-à-dire qu'une personne qui est née sans bras, elle aura l'habitude, avec ses membres inférieurs, à bouger, à se servir de ses pieds. Donc les pieds vont se façonner de telle façon à ce qu'il puisse prendre plein de choses avec ses pieds. Sa hanche, elle va aussi s'écarter, évoluer pour qu'il puisse avoir plus d'amplitude. Voilà. Et tout ça, ça se fait dès le petit âge. Je connais quelqu'un qui a eu un accident de la circulation, qui a perdu ses deux bras. Il est incapable de tirer avec ses pieds, il est incapable de manger avec ses pieds, il est incapable de faire... Parce que, en fait, ça lui est arrivé quand il avait 40 ans, et son corps, il n'était pas fait pour. Alors, il n'avait pas évolué. Alors que quelqu'un qui naît sans bras, son corps se façonne de telle façon à ce qu'il puisse utiliser ses pieds de manière naturelle, j'ai envie de dire.
Comment vous faites pour dormir ?
Comme toi. Je me mets dans le lit, je ferme les yeux. Au début, j'avais des coussins pour me le bloquer un petit peu, mais c'était plus parce que j'avais mal et que j'avais des petits soucis. Mon bras me réveille pendant la nuit parce que j'ai mal, ça c'est sûr. Mais sinon, j'ai pas de problème particulier, il me gêne pas.
C'est quoi votre façon pour tirer à l'arc ?
Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer tous les éléments de l'arc, d'accord ? Et on va le monter ensemble, ok ? Merci beaucoup.
Dernière pause musicale. Écoutons la bande originale du film Rocky.
Le groupe Survivor avec Eye of the Tiger. We'll be right back.
finir l'émission, on vous propose le bêtisier.
Le quoi ?
Le bébé, le tititi et le ziti.
Pause municipale.
Musicale.
Je m'appelle Caïs. C'était pour dire, est-ce que vous réussissez ? Est-ce que vous... Ah.
Hervé.
Que vous ressentis-tu quand tu perds ?
Quand on a un handicap au bras, est-ce qu'il existe de
hein, hein ?
Les stars de la radio, point 7.
Vas-y.
RVM, histoire de la radio 93, France 7.
Le bébé, qu'est-ce qu'il s'agit?
Écoutons le morceau, j'ai essayé de chanter Vianney.
Du chanteur Vianney.
Écoutons le morceau, j'ai essayé le chanteur Vianney.
Alors la chaleur l'a fragilisé.
Qu'est-ce que se passe-t-il?
93.7
avec Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger.
Of Eye the Tiger.
Eyes of the Tiger.
Eye of Tiger.
C'était trop bien. Il est l'heure de nous quitter.
C'était les élèves des classes du CE2 et CM1 de l'école des remparts de Verberie.
On espère que vous avez apprécié l'interview de l'archer Guillaume Toucoulet.
Nous avons passé un super moment.
Eh, vous savez quoi ?
Les stars de la radio reviennent bientôt sur RVM.
Cette fois, ce sera l'interview de la principale et de la principale adjointe du collège d'Armand de Verberie.
On a hâte de les entendre.
Merci à Radio Valois-Mulsien de nous diffuser.
Bonne fin de journée.
Au revoir.